Mes experts en boîte.
Bonjour les Philippe. Moi, je kiffe l'idée d'avoir toujours deux filles pour le prix d'un. C'est vraiment toujours trop chouette.
Salut Virginie.
Salut. 40 ans dans le digital learning, qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Du coup, est-ce que vous vous rappelez de tous ces petits noms?
Ça s'appelait EAO, didacticiel, FFOAD, alors je donne l'explication pour les petits jeunes, formation flexible, ouverte et à distance, enseignement à distance ou formation à distance, formation multimédia, e-learning, et puis bon, digital learning, on va s'arrêter là, tout le monde connaît.
Voilà, et tu nous les as fait dans l'ordre chronologique ou pas?
Presque.
Ah, bravo, ok. Trois ou quatre boîtes plus tard, quand on vient vous voir tous les deux, ça donne quoi du coup de pouvoir avoir deux Philippe pour le prix d'un? Alors, il dit quoi Philippe?
Bah, il dit que partage un peu sa modeste expertise depuis, j'allais dire, une dizaine d'années désormais. Il dit partage son expertise sur trois cibles, les entrepreneurs de light tech, avec lesquels on travaille sur leur stratégie et leur roadmap produit notamment, avec les dirigeants d'organismes de formation, où on repense leur stratégie à la lumière des technos et puis leurs modèles économiques et organisationnels pour s'adapter, et les différents départements formation des grands comptes et des ETI pour travailler sur leur stratégie et feuille de route à 3-5 ans.
Parmi vos 12 publications, bon, c'est LinkedIn hein, qui le dit, je suis allée voir, laquelle nous conseilleriez-vous de lire ou de relire pour les fans?
Si c'est LinkedIn qui le dit, c'est forcément vrai, hein, mais choisir, c'est renoncer, donc on dira trois. Le premier, c'est le bouquin qui s'appelait « e-formation et re-engineering de la formation », qui est quand même sorti en 2000, donc, voilà, et où on aborde des sujets qui sont toujours d'actualité. Donc si on veut voir que l'histoire est toujours un éternel recommencement, c'est là qu'il faut démarrer sa lecture. Le deuxième, c'est celui sur le neuro-learning, dont on est assez fier et coécrit avec le docteur Nadia Medjad, parce que je pense que ça a ouvert une porte importante dans le domaine de la formation professionnelle aujourd'hui. Et puis le troisième, c'est une lecture annuelle, permanente, c'est le Digital Learning Book, dont bien entendu la 7e édition est sous presse quasiment.
Et en fait, il y en a un qui n'est pas sur LinkedIn, et moi, c'est mon préféré, c'est votre BD.
Oui.
Donc quatrième, la BD.
Exactement, la BD des aventuriers du e-learning en 2000 et quelques et du digital learning en 2020, à peu près 18-20.
Vos grands kiffs parmi les événements que vous avez déjà organisés?
Alors, je mettrai de côté le premier parce que c'était pas un grand kiff, c'était sauter dans le vide. Mais parmi les événements qu'on a organisés, c'est les grands débats. En plein Covid, où tout le monde est resté claquemuré chez soi, on a décidé de faire un événement 100% en ligne, avec 5 journées, 5 débats, 5 participants à chaque débat, donc 25 intervenants au total. Mais on a fait ça dans un petit studio, donc on était tous masqués. Des débats très riches parce qu'on avait vraiment envie de se parler et à ce moment-là. Et le succès a été top. Presque 10 000 personnes en live, 20 000 en replay. Voilà, et ça nous plaît bien. Et on recommence pour la 3e édition en mars 2024.
Ok, alors objectif doubler, doubler la participation. Parmi toutes les modalités sur lesquelles vous vous êtes penché, laquelle vous a fait le plus kiffer?
Alors, comme tous les trucs impossibles, la transformation de l'événement NeuroLearning Day, qui était prévu en présentiel juste au moment du premier confinement, et qu'on a transformé en 15 jours en événement 100% en ligne avec les intervenants. Presque 8 intervenants qui n'avaient jamais fait d'animation à distance et en 15 jours on a rebâti tous les ateliers avec eux et ça c'était un truc très intéressant.
Mais du coup, quand on parle modalité, là, ça implique quoi? Parce que parmi toutes les modalités sur lesquelles vous êtes penché, c'était le fait de tout passer à distance, la modalité classe virtuelle, c'est quoi?
Ouais. Et surtout, la transformation de quelque chose qui avait été bouclé pour du présentiel. Et essayer de faire en sorte que pour les participants, l'expérience soit aussi intéressante. Je ne vais pas dire
Ok.
identique, hein, mais aussi intéressante.
Donc, ce qui vous avait fait kiffer, c'est le passage d'un
Ouais,
événement
tout à fait.
ou d'une formation, ça peut être la même chose, du présentiel au distanciel en classe virtuelle,
Exact.
avec une qualité toujours au rendez-vous pour les apprenants. Ok. Parmi tous les projets que vous avez menés, quels qu'ils soient, est-ce que vous en avez un vraiment qui vous laisse un souvenir impérissable?
À tout point de vue, oui, impérissable. Un très très gros projet qu'on a mené il y a plus de 20 ans maintenant. C'est juste pour dire qu'une fois de plus, l'histoire est un éternel recommencement. On a bossé pour General Electric, la branche santé. Et il y a 20 ans déjà, on avait fait pour eux un simulateur de fonctionnement d'un scanner IRM qui permettait de se former en 3D temps réel et donc de former les manipulateurs et les médecins à éviter de cramer les patients le jour où ils passeraient sur la vraie machine, en gros.
Wow. Peut-être que Perrier c'est fou, mais les Philippe aussi quand même. Dans votre boule de cristal, que voyez-vous pour les acteurs ou les passionnés du digital learning dans les 5 prochaines années, on va dire?
Alors moi, je vais commencer par ce qui est déjà là et qui va se généraliser dans les prochaines années, c'est l'incontournable arrivée de l'IA qu'on va croiser dans toutes les phases du process pédagogique. Et moi, ce dont je rêve donc d'ici quelques années, c'est l'IA on demand, on va dire, celle qu'on va programmer avec des instructions pédagogiques plutôt que de lui demander de préparer les choses en amont qu'on va diffuser aux apprenants. Donc donner des instructions à un système qui va suivre ces instructions individuellement pour chaque apprenant en fonction de sa personnalité, son contexte, ses objectifs, son avancement. Ça sera la vraie formation individualisée.
Et puis ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est ce qui va être du domaine de la formation on the flow of work, comme disent nos amis américains, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de plus tendance à se former tout en travaillant et sans avoir conscience finalement de se former. Les outils étant intégrés de plus en plus aux outils de production, cette frontière qui était floue entre production et formation va s'estomper de plus en plus. Et enfin, on l'espère vivement, c'est que la formation ait enfin toute sa place. C'est pas simplement un discours en matière de stratégie d'entreprise. Elle est vraiment un levier essentiel de sa réussite. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire et qui devrait permettre à des patrons de L&D de se retrouver non pas en numéro 2 du RH au comité de direction, mais à côté du RH au comité de direction.
Ah, carrément. Que la déesse de la formation t'entende. Si vous étiez un coup d'éclat, lequel seriez-vous?
Fort modestement, la prise de la Bastille. Parce que depuis le temps qu'on a l'impression de faire la révolution permanente en formation, je pense que ça traduit bien ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a démarré, il y a quelques années maintenant, le stage présentiel, c'était la seule modalité pédagogique en formation professionnelle. Et puis depuis, on a vécu tous les changements qu'on ne va pas relister ici. Et on a modestement, très modestement, la sensation d'avoir contribué un peu à la libération de la formation.
Oui, mais du coup, ce serait quoi ta prise de la Bastille?
C'est d'avoir cassé les murs de la formation.
D'accord, donc du coup, c'est un coup d'éclat que vous avez. Toi, tu as déjà vécu.
C'est un coup d'éclat permanent.
Tu participes tous les jours. Et toi, Philippe?
Or, je sais pas. Non, non, tout a été dit par Philippe sur le dessus. Moi, j'aime bien la prise de la Bastille.
Ouais, c'est sympa. Bon, il reste plus grand-chose à détruire, mais on trouvera bien un truc.
À révolutionner, si, toujours. Voilà, je
Je
pense
parle de
que.
la vraie Bastille. On se fera l'opéra. Un conseil, un tips ou une baseline pour la route?
Je pense que c'est de jamais oublier la finalité de notre métier. En fait, ce qui en fait toute la noblesse, au-delà de la technologie, hein, qui transforme les choses, c'est de faire progresser les individus, les aider à se développer. Bref, ne jamais oublier que notre matière première, c'est l'humain. qu'il faut en prendre le plus grand soin. Et puis, surtout, être sérieux sans se prendre au sérieux.
Oui, c'est ce qui est bien le ton de ton interview, Virginie. Je terminerai par une redite, être sérieux sans se prendre au sérieux.
Ouais. Ok, bah, écoutez, merci de cette interview à deux voix. Mais l'expert en boîte.